Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler combien sa présence est indispensable dans tous les moments de notre vie. Mais il y a des moments particulièrement où on en a besoin, et il y a des moments où on a besoin d'expérimenter encore plus fort que d'habitude la présence de Dieu. Parce qu'il y a des moments où on est plus fragile, parce qu'il y a des moments où on est plus fatigué, parce qu'il y a des moments où on est lassé, il y a des moments où on n'en peut plus. Et dans ces moments-là, le Seigneur particulièrement veut montrer sa présence. On voit dans la Bible plusieurs histoires qui nous montrent ce moment où le Seigneur Jésus est venu et a rejoint quelqu'un qui était en danger, et le résultat, c'est que la situation a totalement changé. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous vivions pour chacun d'entre nous. Quel est le point commun entre une barque et une fournaise? Alors, il n'y a pas grand-chose finalement, si ce n'est, quand on regarde la parole de Dieu, que c'est des endroits où Jésus a rejoint des personnes qui étaient en difficulté. La barque, pendant la tempête, et la fournaise, c'est les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient dans la fournaise et que le Seigneur a rejoint. Et vous savez que la situation a été bien mieux dès l'instant où le Seigneur Jésus était présent en personne. Et par la grâce de Dieu, maintenant que le Seigneur est auprès de son Père, assis à la droite de Dieu, il peut être présent par le Saint-Esprit au milieu de nous. Mais nous voyons bien dans ce premier passage que nous avons lu, que c'est le Seigneur lui-même qui nous introduit dans sa présence. Des fois, on parle trop vite, on dit que Dieu est avec nous. Et on dit aux gens, oui, que Dieu soit avec vous. On a raison de le dire, c'est comme une prière. Mais Dieu va pas être avec nous si on garde le péché dans notre vie, comme ça a été rappelé au travers de notre frère. Dieu va pas être avec nous si on désobéit délibérément. Parce que le Seigneur aime celui qui marche dans la sainteté, le Seigneur aime celui qui marche dans la justice de manière volontaire. Et par contre, quand il voit que nous sommes en danger, quand il voit que nous sommes en péril, alors il s'empresse de nous rejoindre. Lisez avec moi dans Marc chapitre 6 et vous verrez ce premier exemple. Quelques versets très courts qui nous montrent cette histoire d'ailleurs que l'on connaît bien. Marc 6 verset 45, où il y a cette tempête, c'est la deuxième tempête, mais dans cette tempête-là, le Seigneur Jésus n'est pas dans la barque dès le début. Il arrive après. Marc 6, verset 45. Il est dit ceci. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. Quand on voit ses disciples avec le cœur endurci, des fois on se reconnaît facilement dans ce portrait qui est dressé de ses disciples, parce que même après un miracle incroyable, la multiplication des pains qui venait d'avoir lieu, les disciples étaient encore effrayés au moment d'une tempête. Ils avaient déjà connu une tempête où Jésus avait calmé toute chose. Ils s'étaient prosternés devant lui en disant « Mais qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ils savaient, ils connaissaient la puissance de Jésus, mais dans ce moment-là, ils étaient dans le cœur endurci et ils avaient besoin que le Seigneur Jésus vienne à leur rencontre, que le Seigneur Jésus les rejoigne dans leur barque. Et l'image, elle est là, elle est simple, mais le Seigneur Jésus veut nous rejoindre aussi dans notre barque. Peut-être que vous connaissez le Seigneur depuis des années, moi ça fait des années que je connais le Seigneur, mais je veux encore aujourd'hui que le Seigneur me rejoigne dans ma barque. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai vécu. Merci Seigneur pour les bénédictions du passé, mais je crois que le Seigneur Jésus, aujourd'hui, il a quelque chose pour moi, pour ma famille, pour cette église, pour chacun d'entre vous aussi, je le crois, parce que notre Seigneur Jésus, sa main est puissante pour nous bénir. La situation, elle est là, en tout cas. Les disciples, ils sont dans la barque. On pourrait dire ils sont tout seuls dans la barque. Oui, sauf qu'ils sont déjà 12. Ils sont 12, mais il n'y a pas le Seigneur Jésus. Et Jésus, lui, il est resté avec la foule. Vous savez ce qui s'est passé après la multiplication des pains? La foule a voulu que Jésus devienne le roi, a voulu mettre Jésus comme le nouveau gouverneur du pays d'Israël. Et Jésus est resté dans ce but, justement, de montrer que c'était pas ça la volonté de Dieu. Il n'est pas venu comme un roi qui allait avoir ce pouvoir sur l'humanité, ce pouvoir terrestre. Il est venu comme un roi humble qui devait passer jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Et il avait besoin d'expliquer ces choses à cette foule qui, elle, en voyant quelqu'un qui pourvoyait pour son repas, était bien contente de le faire roi. Et c'est pour ça qu'il a renvoyé ses disciples. D'ailleurs, c'est bien précisé que c'est lui, c'est Jésus qui a envoyé les disciples sur la mer. C'est Jésus. Et est-ce qu'il savait qu'il allait avoir une tempête? Ou est-ce que le Seigneur Jésus était dépassé par les événements? C'est pas notre Seigneur Jésus, ça. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il savait toutes choses. Quand quelqu'un lui parlait, il savait ce qu'il y avait dans son cœur. Ce matin, il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas omniscient. Mais Jésus, oui. Et par son esprit, il sonde nos cœurs. Et il voit de quelle manière on écoute sa parole. Et le Seigneur Jésus savait très bien qu'ils allaient être confrontés à un moment difficile. Mais il leur a ordonné d'y aller. Il leur a donné une parole. Ça voulait dire, dans cette parole, il y avait toute l'assurance qu'il pouvait aller jusqu'au bout. Parce que c'est lui qui les avait envoyés. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pas quelque chose qui est au-delà de notre force. Parce que sinon, Dieu serait injuste. Et le Seigneur, quand il nous demande quelque chose, il nous communique en plus la force pour le faire. Il nous assure que ça va réussir parce que c'est des promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il l'accomplit. Et c'est pour cela que quand les disciples sont allés, ils se sont retrouvés, eux, confrontés à la tempête. Il y a toutes sortes de choses qui ont commencé à germer dans leurs pensées. Alors qu'ils auraient dû s'appuyer sur la parole de Dieu. Et puis, l'histoire se passe la nuit. La nuit, c'est pas comme en plein jour. Le jour, on arrive à discerner un peu plus la situation. Mais là, c'était la nuit. Il y avait la tempête, le vent contraire. Il y avait la mer qui était déchaînée. Et quand on lit cette histoire, on a l'impression que ça raconte un petit peu les épreuves que l'on rencontre. Des fois, il y a des vents qui sont contraires. Quand on est chrétien, tout ne marche pas comme sur des roulettes. Quand on est chrétien, il n'y a pas un tapis rouge. Les gens au dehors nous mettent pas un tapis rouge devant nous pour nous dire « Ah, bravo, c'est merveilleux que tu sois chrétien. J'aimerais être comme toi. » Ça arrive des fois que c'est comme ça, mais c'est pas tout le temps. Il y a des moments où Dieu fait grâce particulièrement, mais il y a des moments où il y a la tempête et le vent contraire. Il y a des moments où on fatigue. Il y a des moments où on n'en peut plus. Mais cette histoire, elle est là pour nous montrer combien la présence de Jésus, elle est importante. Et ce matin, si je pouvais vous convaincre encore plus de cette réalité, c'est que la présence de Jésus est importante pour chacune de nos vies. Même si on connaît le Seigneur, les disciples connaissaient bien le Seigneur, ça faisait plusieurs années, plusieurs temps qu'ils étaient avec lui, qu'ils le voyaient vivre, qu'ils avaient entendu toutes sortes d'enseignements, ils avaient expérimenté de belles choses, ils avaient vu des miracles. Mais ils avaient encore besoin à ce moment-là de la présence du Seigneur. Et à quel moment, quelle journée on pourra se dire « Ah ben aujourd'hui, j'ai plus besoin de la présence du Seigneur Jésus. » Jamais. Si on se dit ça, c'est qu'on est en danger. Et vous savez quoi? Quand on sera dans le ciel, ben on sera continuellement dans la présence du Seigneur. Si on a été sauvé, c'est une des raisons pour lesquelles on a été sauvé. Oui, c'est d'être loin de notre péché. Mais c'est pour pouvoir aller dans la présence de Jésus. Alors si nous aimons la présence du Seigneur, nous serons satisfaits dans le ciel, nous serons dans la plénitude, dans la joie, dans le bonheur, nous serons face à face avec notre Seigneur. Mais si déjà sur la terre, on n'aime pas cette présence, ben ça sera presque l'enfer, le ciel, pour nous. Si on est continuellement dans la présence du Seigneur, alors qu'on ne l'aime pas vraiment. Mais le Seigneur est celui qui veut faire grâce encore ce matin. Jésus... Une des choses que cette histoire nous apprend, c'est que Jésus nous voit quand nous peinons, quand nous sommes fatigués. Jésus, il est sur la montagne, et sur la montagne, il avait une vue sur le lac de Génézareth qui était là, et il les voyait, à un moment donné, ils sont au milieu du lac, il les voyait qu'ils étaient en train de ramer, dans tous les sens du terme. Ils étaient en train de faire tout ce qu'ils pouvaient par leurs moyens humains, c'était des marins aguerris, ils avaient des capacités, mais les éléments déchaînés, ils étaient plus forts qu'eux. Et Jésus... La Bible nous dit que Jésus les voyait. Je ne sais pas si ça vous fait du bien de le savoir, mais moi ça me fait du bien de savoir que quand ça va pas, Jésus me voit. Jésus voit la peine. Jésus voit que j'en peux plus. Jésus voit que je suis terrassé par l'épreuve et qu'à un moment donné, je vais abandonner. Et c'est pour cela qu'il choisit de se lever, il choisit de marcher. Et la deuxième chose que cette histoire nous apprend, c'est que Jésus, il est puissant. Les vagues, elles sont là, c'est les mêmes. Le vent, il est là, il est fort. Mais Jésus, lui, ça ne le dérange pas. Il marche sur les eaux. La puissance des vagues, il écrase sous ses pieds. Ça, c'est notre mon Seigneur Jésus. Et c'est cette image que le Seigneur Jésus veut marquer dans notre esprit, qu'il est tout puissant pour marcher sur ce qui nous fait peur à nous. Il est tout puissant pour affronter le vent contraire. Lui, le vent, il ne lui fait pas peur du tout. Parce qu'il est celui qui a créé le vent. Il est celui qui a créé la mer. Il est celui qui a créé la terre, l'univers. Toutes choses sont dans sa main. Le Seigneur Jésus est puissant. Et c'est bon de réaliser qu'il peut écraser notre épreuve. Il peut écraser ce qui nous fait peur. Et à un moment donné, ses disciples, alors qu'ils voient Jésus arriver, au lieu de se réjouir, au lieu de dire « mais ça y est, on va être délivrés, Jésus vient nous rejoindre », vous avez vu comment ils ont réagi ? Ils ont eu peur. Ils ont eu peur et ils ont cru que c'était un fantôme. Oui, à des moments donnés, quand on est dans l'épreuve, on manque de discernement. Parce qu'on est dans la peur, parce qu'on est dans le doute, parce qu'on est dans la crainte. Il y a beaucoup de sentiments qui sont là en nous, qui font qu'on ne reconnaît pas l'action du Seigneur dans notre vie. Mais le Seigneur Jésus était là. Et ceux qui auraient dû les réjouir en disant « mais oui, mais Jésus, il est en train de marcher sur l'eau, il est en train d'écraser ce qui me fait peur », on est sauvés. On est déjà sauvés. Et plutôt que d'écouter, de se souvenir de la parole que Jésus leur avait donnée, ils ont commencé à croire que c'était un fantôme. Il y a des moments où on se trompe dans notre épreuve. Il y a des moments où on réfléchit bizarrement. Mais heureusement, le Seigneur Jésus n'est pas celui qui tient compte de cela. Il a donné une parole pour rassurer. Et je crois que ce matin, c'est ce que le Seigneur veut faire. Peut-être pour toi qui traverse l'épreuve, qui a des vents contraires, le Seigneur veut te rassurer en te disant « c'est moi, je suis avec toi dans cette situation ». Peut-être que tu ne te rends pas compte, tu n'arrives pas à me reconnaître, mais je suis là. Et l'épreuve, elle est plus petite que ma main, parce que je suis le Tout-Puissant. Jésus leur dit, n'ayez pas peur. C'est bon d'entendre cette parole. C'est bon de réaliser que le Seigneur est celui qui nous donne cette paix, ce calme, malgré l'épreuve, c'est ce qu'on a chanté. D'ailleurs, j'ai choisi les chants, pas au hasard non plus, hein. Mais on est dans l'esprit calme et tranquille dans la présence du Seigneur, même si les océans se déchaînent, on les traverse avec le Seigneur. Et regardez ce qui se passe quand Jésus monte dans la barque. Dès l'instant où il monte dans la barque, il est dit que le vent, il a cessé. Jésus n'a même pas eu le besoin de parler cette fois-ci. Mais dès l'instant où Jésus était présent avec eux dans la barque, le vent a cessé. L'épreuve qui semblait si terrible, en un instant, s'est calmée. Est-ce que ce n'est pas intéressant pour nous ? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons vivre ? Seigneur, viens dans ma barque aujourd'hui, que le vent puisse cesser. C'est dans Jean, je crois, qu'il est précisé que dès l'instant où il est monté dans la barque, ils sont arrivés à bon port. Il a à peine mis le pied dans la barque qu'ils sont arrivés là où ils devaient aller. Mais voilà, quand le Seigneur Jésus vient avec nous, les choses s'accélèrent. Sa présence, elle fait vraiment la différence. Ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, mais c'est une réalité. Quand on met Jésus dans notre barque, il y a les situations qui s'enchaînent et la grâce de Dieu qui vient nous surprendre, qui vient faire bouger les choses, bousculer les choses. C'est Adémar qui nous parlait vendredi de cette grâce qu'ils ont eue de pouvoir obtenir la nationalité française après pas mal de temps. Mais ils ont fait confiance au Seigneur et le Seigneur Jésus, alors qu'il y a une petite difficulté au niveau du langage, tu confirmes Adémar par rapport au français, mais Dieu, ce n'est pas un problème pour lui. Il incline le cœur des rois, nous dit la Bible. Alors, il incline même le cœur des autorités, de ceux qui délivrent. Et ils ont la nationalité française. Et on se réjouit. Alors, ce sont déjà nos frères et sœurs. Même s'ils ne l'avaient pas, ce sont déjà nos frères et sœurs. Mais on voit que notre Dieu est le Tout-Puissant pour agir. Et quand on lui fait confiance, quand il est dans notre barque, il conduit tout pour que sa puissance se glorifie. Et c'est dans cette histoire, c'est ce que l'on voit. Qui c'est qui est glorifié ? Est-ce que c'est les disciples ? Les disciples, ils sont spectateurs, ils ont eu peur, ils ont douté, ils ont déployé leurs forces, ils sont fatigués. Mais c'est Jésus qui fait la différence. Vous avez beau être les meilleurs marins de votre vie, de votre barque, c'est Jésus qui fera la différence pour vous. Et faites confiance au Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on puisse aller rapidement dans cette histoire, cette seconde histoire, quand Jésus est venu dans la fournaise. Daniel chapitre 3, C'est important qu'on puisse le relire. Alors, quelques versets, on ne va pas tout lire. Vous savez, les circonstances où le roi Nebuchadnezzar, il a fait une statue d'or, haute de 60 coudées, ça veut dire à peu près une trentaine de mètres. Vous imaginez la statue? Et le problème de cette histoire, c'est qu'il a ordonné qu'au son de la musique, toutes sortes d'instruments qui sont là, alors je vais vous en citer quelques-uns si je retrouve, la trompette, le chalumeau, la guitare, la sambuc, le psaltérion, la cornemuse, toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. Et quiconque ne le fera pas, il n'aura pas une amende. Il sera envoyé à la fournaise. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de gens étaient motivés pour adorer la statue. On ne sait pas pourquoi. Mais beaucoup se sont prosternés. Bon, il y en a peut-être qui pensaient à leur avancement. Si je fais ça, je vais bien me faire voir devant le roi. Et comme ça, je vais pouvoir grimper. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui étaient de pouvoir qui sont allées accuser les Juifs parce qu'ils ne s'étaient pas prosternés. Mais imaginez un petit peu cette situation où la musique retentit, où les instruments se mettent à jouer. Il y a une ambiance terrible. La statue d'or, elle est là. Tout le monde la voit. Elle est gigantesque. Tout le monde se prosterne. Tout le monde? Pas tout le monde. Il y en a trois qui sont là debout, au milieu de la foule qui est prosternée. Et je suis sûr qu'à côté d'eux, il y en a qui ont dit, mais baissez-vous, sinon vous allez finir dans la fournaise. Prosternez-vous tout de suite. Qui l'ont fait parce qu'ils voulaient pas qu'il meure. Par contre, il y en a qui l'ont fait en disant, mais tiens, lui, il a un poste que j'aimerais bien avoir. Ça m'intéresserait d'avoir son poste. Alors, je vais aller voir le roi, je vais lui envoyer un message. Alors, regardez ce qu'il est dit. Je vous ai fait un rapide résumé. Au verset 8, « À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, au roi, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas à mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de ces instruments, vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main? Et regardez la réponse. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Certainement, roi !» Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et ils sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit : « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. » Amen. Je crois que ça valait la peine de lire cette histoire aussi. Parce que nous voyons là la toute-puissance de notre Dieu. Et quand on entend cet ordre du roi, vous avez vu ce qu'il est dit ? C'est le slogan qu'on retrouve dans ce monde. Le prince de ce monde, il dit : « Mais adorez les choses de cette terre, adorez les choses qui brillent, servez toutes ces choses qui sont terrestres, qui sont éphémères, toutes les joies que vous pouvez y trouver ici-bas. Et si vous ne le faites pas, alors vous loupez votre vie. Si vous ne le faites pas, vous risquez de passer à côté, vous risquez de mourir. » Et si on entend ces mensonges de l'adversaire dans notre société. Et on voit beaucoup de gens qui font cela et qui finalement, en fait, ils sont en train de se rendre, coupables devant Dieu et de rentrer dans les conséquences du péché qui nous éloigne de Dieu. Vous avez remarqué cette vérité aussi ? C'est que le roi, il avait bien conscience qu'entre adoration et service, il y a un lien très fort. Adorez ma statue et servez mes dieux. Et vous savez que Jésus a dit la même chose, mais lui, il a dit dans le bon sens. Quand le tentateur est venu le voir, Jésus a répondu, parce qu'il voulait qu'il adore. Jésus a répondu tout simplement : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Dieu recherche, il l'a dit ailleurs, des adorateurs en esprit et en vérité. Et vous savez qu'il y a un lien indéniable entre le service et l'adoration. Ce que nous servons, c'est ce que nous adorons. Le temps que nous passons à faire certaines choses, qui prend le plus de temps dans notre vie, c'est ce que nous adorons vraiment. Il n'y a pas de secret dans ça. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et lui, il cherche des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. En esprit, il y en a beaucoup qui adorent Dieu en esprit, qui adorent Dieu de manière théorique. Mais Dieu veut pas de cette manière-là, cet esprit-là. Dieu veut par son esprit que nous soyons adorateurs avec authenticité. C'est-à-dire que quand nous sommes au dehors de l'Église, comme quand nous sommes au dedans, nous n'avons pas de double visage, mais nous sommes des adorateurs authentiques. Et le roi Nebuchadnezzar lui avait compris le lien qu'il y avait, mais il voulait s'attacher les gens. Il voulait que quand ils adorent sa statue, ils pensent que c'était lui qui était comme un dieu. Et il voulait se mettre les gens dans sa poche. Le problème, c'est que les amis de Daniel, ils avaient une autre façon de voir les choses. Ils avaient confiance en Dieu, ils avaient confiance dans sa parole. Et ils ont choisi de désobéir. On entend aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans le compromis, qui sont dans la foi, mais qui sont aussi dans le compromis. Et beaucoup de gens, à la place de ces amis de Daniel, ils auraient dit : « Oui, mais je vais me prosterner, mais dans mon cœur, je ne vais pas me prosterner. » On entend des gens aujourd'hui qui sont là dans le compromis, qui disent : « Si je me prosterne, que je fais comme tout le monde, après je vais pouvoir rendre un bon témoignage autour de moi. » Mais est-ce qu'ils n'ont pas rendu un bon témoignage en ne se prosternant pas ? Ben la preuve, c'est qu'à la fin, c'est le roi lui-même qui a dit que maintenant, il faut, si quelqu'un parlera en mal de ce Dieu-là, c'est lui qui sera condamné. Et qu'il y a le devoir de ces personnes de respecter le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Donc le témoignage a été favorable, mais ils ont risqué leur vie. Et souvent, nous, on lit rapidement les histoires parce que peut-être on les a entendues depuis longtemps. On a l'impression que Shadrach, Meshach et Abednego, ils savaient qu'ils n'allaient pas mourir. Mais quand ils sont en train de répondre au roi, ils n'avaient aucune idée s'ils allaient mourir ou pas. Mais ils ont dit cette parole : « Notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer. Il a la puissance. Il va nous délivrer de ta main. » Mais ils disent quand même : « Sinon. » Et je crois que ce mot, il est important. Sinon. Ça veut dire : « Seigneur, tu es puissant pour me délivrer de l'épreuve, mais si tu ne me permets pas que j'en sois délivré, je te fais confiance quand même. » Et je crois qu'il faut une grande maturité spirituelle pour pouvoir avoir ce genre d'attitude dans ce moment-là. On ne sait pas de quelle manière, parce qu'on est dans un pays libre, on ne sait pas de quelle manière on réagirait à leur place. Mais il y en a dans le monde, aujourd'hui encore, qui sont dans ces attitudes de cœur et qui vont en prison, certains qui sont mis à mort simplement parce qu'ils ont lu la Bible. Ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors en France, on ne se rend pas compte, mais c'est encore une réalité. Et il y a encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent « Moi, je ne veux pas renier mon Dieu. Je ne veux pas du compromis dans ma foi. Mais je veux que le Seigneur se glorifie par ma vie. » Regardez de quelle manière l'ennemi s'acharne. Ça nous fait penser à les épreuves que nous rencontrons. Il y a une grande colère, la fureur du roi. Le roi est en fureur et vous savez qu'il y a quelqu'un qui est encore plus en fureur que Nebuchadnezzar à ce moment-là. C'est l'ennemi de nos âmes. La Bible nous dit qu'il est venu sur la terre comme une bête qui est enragée, qui est blessée. Vous avez déjà vu un petit chaton? C'est mignon un chaton. Mais quand il est blessé un chaton, qu'est-ce qui se passe? Il hérisse les poils et quand on veut venir le soigner, lui il sait pas, il nous connaît pas. Il hérisse les poils et il commence à griffer. Mais imaginez maintenant que c'est un lion qui est blessé. Déjà un lion en bonne santé. On n'a pas trop envie de le rencontrer, mais un lion qui est blessé. C'est mortel. C'est le cas de le dire. Et l'ennemi de nos âmes, il est comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Mais la Bible nous dit en plus qu'il est blessé parce qu'il a perdu une partie de son pouvoir. Et il est là, lui qui était cet archange dans le ciel, qui régnait sur tellement de choses, qui était au service de Dieu, qui était même un chef de musique incroyable. Il a perdu cette place dans le ciel parce qu'il y a eu de l'orgueil dans sa vie. Et maintenant, il est enragé et il veut amener dans sa chute le maximum. C'est pour cela qu'envers nous, il y a une fureur du diable. Il y a des gens aujourd'hui qui disent « Ah non, le diable, ça n'existe pas. » Mais quand on voit ce que les gens sont capables de faire aujourd'hui, des parents qui sont capables de maltraiter, de tuer même leurs enfants, c'est des choses horribles qui nous montrent qu'il y a une réalité du mal qui agit dans le cœur des êtres humains, qui refusent Dieu. Mais quand on refuse Dieu, la Bible nous dit « On ne peut pas avoir deux maîtres. Si on refuse Dieu, on va forcément servir l'autre. » On sert le diable sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui se passait, la fureur du roi. Le roi envoie des hommes qui sont baraqués, des hommes, des soldats vigoureux pour lier Shadrach, Meshach et Abednego. Je suis sûr qu'ils ne se seraient même pas enfuis. Ils y seraient allés sans qu'on mette des liens. Mais l'ennemi, il aime mettre des liens autour de nous. Il aime nous empêcher d'avancer dans notre vie chrétienne. Il aime nous bloquer. Il aime parce qu'il croit qu'il a le pouvoir sur nous. Et Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvent avec des liens. Ils se retrouvent là, empêchés de se défendre, empêchés de courir loin. Est-ce que c'est confortable quand on est serré comme ça? Est-ce que vous avez envie que je vous le fasse à la sortie du culte? J'allais chercher une corde et c'est pas confortable. Mais quand on est dans ces moments-là, quand on ne peut plus rien, est-ce que ça ne nous apprend pas à dépendre de Dieu seulement? Quand on a les bras bloqués, est-ce qu'on peut faire grand-chose? Non. Et Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient déjà dans la foi. Mais là encore, ils avaient besoin de que cette foi soit authentique pour leur Dieu. Et ils ont dit, Seigneur, on te fait confiance. Et quand Jésus s'est manifesté, la Bible nous dit que c'est un ange qui avait l'apparence des fils de Dieu. Il y a une version, c'est la Septante qui nous dit que c'était le fils de Dieu. Et moi, je crois que c'était l'ange de l'Éternel. C'était cette apparition de Jésus avant qu'il vienne sur la terre. C'était Jésus qui les a rejoints au milieu de la fournaise. Mais quand il a été là, on voit que déjà la première chose, c'est que Nebuchadnezzar, il s'est mis à avoir peur, à trembler. Et c'est l'image de quand Jésus vient dans notre vie, l'enfer tremble, le diable tremble, les démons tremblent. Les démons ne tremblent pas quand on dit je te chasse au nom du Seigneur. Les démons, ils tremblent quand Jésus est avec nous et que nous disons ça. C'est pas notre parole, c'est pas notre autorité qui font chasser les démons, qui font fuir l'ennemi. C'est la présence du Seigneur Jésus. Demander aux fils de Siva qui ont chassé les démons en disant je chasse cet esprit au nom de Jésus que Paul prêche. Le résultat, c'est qu'ils se sont fait légèrement amocher parce que ce n'était pas Jésus qui était avec eux. Ils ont fait une méthode, mais les méthodes, ça ne marche pas. C'est la présence de Jésus qui marche. On peut imiter les méthodes de notre monde, mais ce n'est pas ça qui va faire que Jésus sera présent. Ce n'est pas ça qui va faire que des gens vont être sauvés. Ce qui va faire que des gens vont être sauvés, des gens vont être guéris, des gens vont être restaurés, c'est la présence de Jésus. C'est celle-là qui fait la différence. Quand Jésus est présent, les obstacles sont consumés par l'épreuve. Ce devant quoi on pensait que c'était terrible, l'épreuve, la fournaise qui est là, qui est chauffée 7 fois plus que d'habitude, elle sert cette épreuve à ce que les liens tombent. Des fois, nous on dit « Seigneur, non, je ne veux pas l'épreuve, par pitié !» Oui, mais l'épreuve sert à ce que les liens tombent. L'épreuve sert à ce que nous pouvons aller plus loin avec le Seigneur. L'épreuve sert à ce que ceux qui s'opposent à nous soient jugés. Les soldats qui ont jeté les amis de Daniel dans la fournaise, ils sont morts. Le Seigneur s'occupe de nous, mais nous, on doit accepter de passer par l'épreuve. Des fois, on dit, Seigneur, permets que mon épreuve, ça ne soit pas une fournaise. mais ça soit un petit briquet, la flamme d'un briquet. Oui, mais comment est-ce que la gloire de Dieu va se manifester avec la flamme d'un briquet? Vous avez déjà vu ça? Ou une allumette, si vous préférez. Quel est le danger avec une allumette? Comment on peut arrêter que le feu brûle? C'est tout. Une fournaise ardente, vous avez déjà essayé de souffler? Vous risquez d'attiser encore plus la flamme. Et le problème, il est là, c'est que des fois, on veut des épreuves qui soient à notre capacité à nous, mais qui ne vont pas glorifier Dieu. Alors que Dieu veut nous faire passer par des épreuves, oui, cette fois, chauffer plus que d'habitude, mais oui, il va venir avec nous, sa présence sera là. Et nous allons avoir la délivrance. Jésus est présent, et la différence, c'est que la fournaise n'a laissé aucune trace sur leur corps. Des fois, on a peur de passer par l'épreuve, parce qu'on a peur des conséquences que ça va laisser dans notre vie. Mais là, l'image, elle est présente pour nous montrer que si on passe par l'épreuve avec foi, avec confiance en Dieu, sans avoir de compromis. Aujourd'hui, j'étais encore choqué cette semaine, j'ai eu quelqu'un au téléphone, je ne dirai pas qui, pas dans cette église en plus, mais je ne dirai pas d'où, et je ne dirai pas la position qu'il avait dans l'église, mais une personne qui a une position importante quand même, et qui m'a dit un gros mot, comme ça au téléphone. Je ne le connais pas plus que ça en plus. Mais ça montre comment on peut laisser le compromis dans notre vie. Vous allez me dire, mais tout le monde le fait aujourd'hui, c'est pas grave. Oui, mais tout le monde à l'époque s'est prosterné devant la statue. Mais ceux qui ont vécu la présence de Jésus, c'était ceux qui étaient fidèles, droits à la parole. Et voilà la question, qu'est-ce que nous préférons? Faire comme tout le monde? C'est pas moi qui vais vous courir après pour que vous recherchiez la présence du Seigneur. Bien sûr, moi je vais vous exhorter. Mais après, c'est votre affaire entre vous et Dieu. Mais qu'est-ce que vous préférez, faire comme tout le monde et pas connaître la présence de Dieu, ou alors connaître la présence de Jésus? Et vivre, oui, des épreuves terribles, mais voir la gloire de Dieu se manifester dans ces épreuves terribles. Et combien c'est merveilleux quand on voit des personnes qui font confiance au Seigneur Jésus. Combien c'est merveilleux quand on voit des personnes qui sont au plus bas et qui, même dans l'épreuve la plus terrible, aux portes de la mort, ils sont capables d'encourager les autres. Ils sont capables d'avoir une parole d'exhortation à ceux qui vont les visiter. Je pense souvent à Monsieur Gisquet qui a passé par un moment terrible où on a pensé qu'il allait partir auprès du Seigneur. Mais toutes les personnes qui sont allées le voir, moi y compris, ont été encouragées. Alors c'est lui qui était bien malade. C'est lui qui était fatigué. Mais c'est lui qui donnait une parole de grâce. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons que le Seigneur Jésus soit présent? Je vous rappelle ce verset que nous avons lu. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. C'est le Seigneur Jésus qui nous choisit, mais c'est à nous de vouloir être choisis. C'est à nous d'être candidats et de dire, Seigneur, je ne mérite rien. Je suis pécheur, mais tu veux m'admettre dans ta présence parce que tu as donné ta vie pour moi. On va prier le Seigneur quelques instants.